En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Ça y est, l'un des plus grands spécialistes du monde arabe et musulman est là. Gilles Kepel, incontournable, controversé parfois et très secret. Alors bien sûr, on peut savoir très facilement qu'il est directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée et professeur à Sciences Po. Le public et les journalistes attendent toujours le nouveau Kepel à lire, par exemple, La fracture, Terreur dans l'Hexagone, Genèse du djihad français ou Passion arabe. Mais que sait-on de ce politologue qui déboule dans notre salon à chaque fois que l'islam politique frappe le monde ou l'Hexagone? Et d'ailleurs, pourquoi Gilles Kepel en sol majeur? Alors parce que nous avons le cœur noir en ce 7 janvier, jour anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, je vous propose de réécouter le plus précieux des hommes secrets. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Je profite de votre présence pour redire le secret du titre en sol majeur, émission née en 2009, peu avant la création du ministère d'Identité nationale et d'immigration, et qui interroge des personnalités justement sur leur lien au sol, la terre natale, la terre d'origine. Est-ce que vous, vous diriez d'entrée de jeu que vous avez plusieurs sols majeurs?
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a celui où je suis né à Paris, sans doute, dans la polyclinique des métallurgistes CGT, comme tous les gosses de communistes de l'époque, à Belleville. Et puis, j'ai un autre sol très important, je crois, qui a probablement décidé d'une partie de ma vocation, en tout cas du tropisme que j'ai eu pour la Méditerranée. C'est la ville de Nice et le village de Gorbio, au-dessus de Menton, d'où une partie de ma famille maternelle est originaire. Et comme mes parents étaient dans la dèche quand je suis né, j'ai été fabriqué pour éviter à mon père de mourir en Algérie. Puisque c'était un Tchèque, il avait été naturalisé français, comme tous les jeunes gens qu'on naturalisait très facilement à l'époque, pour pouvoir les envoyer au casse-pipe. Une fois que je suis arrivé, il fallait s'occuper de moi et me nourrir, ce qui était au-dessus de leur force. Et donc on m'a confié à ma grand-mère, qui était institutrice, et qui avait un logement de fonction magnifique pour une pauvre institutrice, dans une villa réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale et transformée en école, dans un grand parc au bord de la Méditerranée. Donc c'est ça qui m'a peut-être constitué. Et puis le troisième sol, je l'ai découvert beaucoup plus tard, parce que mon père ne m'a jamais parlé tchèque. Mon père est toujours vivant, mais qui est très malade, et qui ne pourra pas écouter cette émission, car sa tête l'a lâché. Était le premier traducteur en français de Václav Havel. Et je ne m'y suis jamais beaucoup intéressé à cette partie de moi-même, jusqu'à récemment, quand il est tombé malade, justement, Et du coup, je me suis redécouvert un sol bohémien, si je puis dire, dans le village d'origine de son propre père, qui est arrivé en France en 1908 pour participer au mouvement littéraire parisien qui fascinait à l'époque le monde.
Quelle belle entrée en matière!
Mais ça fait plusieurs sols. Je ne sais pas si l'un est majeur ou l'autre est mineur, mais s'il y a un dièse, un bémol ou un bécard, mais on va y aller.
R comme roman familial.
Alors je découvre Gilles Kepel, que vous êtes un raconteur, et ça vient peut-être effectivement de ce roman familial, il y en a bien un. Qui était Rudolf Kepel?
C'était mon grand-père. Alors figurez-vous qu'en 1915, il y avait 100 ans l'année dernière, il a lancé à Paris une revue qui s'appelait La Nation Tchèque, en français, qui était destinée à faire imploser l'Empire austro-hongrois et à favoriser l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Et il a fait ça à partir de Paris, où il était venu donc en 1908. Et l'an dernier, j'avais retrouvé dans les affaires de mon père un profil de mon grand-père qui avait été fait par le plus grand sculpteur tchèque de l'entre-deux-guerres, qui s'appelait Otakar Španiel, qui avait fait la grande statue de Masaryk, le fondateur de la Tchécoslovaquie, qui est devant le palais présidentiel Hradčín à Prague. Et donc j'ai fait reproduire par un autre sculpteur tchèque ce profil en plâtre, un peu plus grand, et j'en ai préparé trois copies. L'une que je suis allé accrocher dans le lycée de Tabor, qui est aujourd'hui un lycée franco-tchèque, ça tombe bien, où il a eu son bac en 1895, et un autre dans son village natal. Et figurez-vous que c'était le 13 novembre 2015, le massacre du Bataclan. Et du coup, je suis rentré le lendemain matin très vite, donc ça m'a beaucoup frappé. Voilà qui était Rudolf. Et j'aime beaucoup Apollinaire. Et Apollinaire est allé à Prague, vous savez, il a écrit ce recueil qui s'appelle L'Hérésiarque et compagnie, Le Passant de Prague. Et la semaine dernière, quelqu'un que je ne connaissais pas, un érudit de Namur, me dit « Monsieur, j'ai édité la correspondance d'Apollinaire et j'ai trouvé une lettre écrite par votre grand-père à Apollinaire. La voici, savez-vous d'où elle a été écrite? J'arrive pas à déchiffrer, machin, etc. » Et donc j'étais complètement...
Hommage à Rudolf. Je remarque la disparition du « e » dans votre patronyme.
Oui. Mon père a ajouté un « e » pour la blanchisserie, oui. Puisque Keppel, c'était totalement imprononçable.
Assimilation, donc, de la famille.
Ah, complètement, oui, je me revendique comme un métèque assimilé.
Ah oui?
Ah oui, complètement.
Comme un métèque assimilé. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme Alain Minc, je ne sais pas si vous le lisez autant qu'Apollinaire,
non.
Il a écrit un français de temps de souche, pour définir l'identité française, selon lui, il faut opérer un arrêt sur image qui fixe quelque chose, justement, qui ne peut pas l'être. L'identité est mobile.
Ah, tout à fait, oui, c'est pourquoi j'ai pris un peu de distance avec la formule d'Alain Juppé sur l'identité heureuse, parce que pour moi, l'identité est une construction permanente, c'est une projection, et je suis très hostile aux constructions identitaires qui se figent sur un passé et qui, à partir de là, construisent des frontières exclusives. C'est un peu le thème de la fracture, d'un côté... des mouvements qui, à l'extrême droite du champ politique, ont une conception ethno-raciale de l'identité française, et de l'autre, des mouvements communautaristes qui exacerbent une identité islamique pour désigner tous les autres comme des impies ou des apostats dont le sang est licite, si vous voulez. Et moi, je me sens très profondément français. Et ce qui n'est pas exclusif de quoi que ce soit, je passe mon temps à voyager, je parle une demi-douzaine de langues, j'étais à Rome la semaine dernière.
On peut être multiple, on n'en est pas moins français.
Oui, oui, j'en fais pas d'ailleurs une histoire, je pourrais être autre chose, mais il se trouve que c'est ça, et qu'en fait c'est par l'écriture. Je suis français par mon écriture. Vous savez, on disait dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, on est grec par la palestre, c'est-à-dire par le lycée, quoi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Quand vous entendez les chants du muezzin
Alif Lam Mim
Que ressentez-vous?
Vous savez, ça me rappelle quand j'habitais en Égypte. J'ai assisté quasiment in vivo à l'assassinat de Sadat. Les mouvements islamistes étaient en pleine naissance à ce moment-là, avec l'encouragement de Sadat, justement, qui voulait s'en servir pour lutter contre la gauche égyptienne. Et une association islamiste quelconque avait installé un haut-parleur dans un immeuble à côté, parce que ça permettait de bénéficier d'une déduction fiscale, je crois. Et à 5h du matin, ou à 4h...
C'est l'heure.
Voilà, j'entendais le chant du muezzin qui n'était pas très harmonieux comme celui que nous d'entendre, parce qu'il le faisait gueuler dans une sono sursaturée.
Il y a des chants de muezzin, vous en conviendrez, Gilles Keppel, qui sont absolument superbes. Est-ce que cette religion a pu exercer sur vous une forme de séduction?
De l'islam comme religion, non. Moi, je suis athée et les religions ne me séduisent pas du tout.
Justement, est-ce que c'est en tant qu'orientaliste que vous êtes arrivé dans ce monde arabe? Comment ça s'est passé cette première fois dans ce territoire loin, loin de nous? Est-ce qu'il y a eu, pour reprendre justement un de vos titres, une passion arabe instinctive chez vous?
Ah non, pas du tout. En fait, quand j'étais en Cagne, donc j'ai échoué lamentablement au concours d'entrée à l'école normale supérieure. J'ai eu 4 en philo, 4 en histoire.
Ça nous rassure.
Et 4 en français.
Ça vous rend humain.
Oui, et mais c'est assez drôle parce que donc je suis parti, je vais vous raconter pourquoi. J'ai fait ce grand détour par l'Orient, dont je ne savais pas que c'était l'Orient. Des Arabes, je connaissais que Tintin au pays de l'or noir, si vous voulez.
Même pas Flaubert.
Alors, oui, parce que j'avais emporté pour tout bagage le volume, parce que je voyageais très léger, hein, de la correspondance de Flaubert en Orient. Mais à ce moment-là, non, ce qui m'avait frappé, c'était... En Cagne, on avait au-dessus du tableau noir une carte de l'Empire romain. Alors, le monde diplomatique ou Mediapart pourront dire qu'ils voyaient en moi déjà l'impérialiste. Il y avait les dates d'entrée des provinces dans l'Empire, Sépia, Bistre, Verclère. Et puis, bon, ma mère était morte cette année-là dans un accident de voiture. J'ai perturbé pas mal de choses. Et avec un copain, on a décidé, qu'on n'avait rien à faire, de partir voir la carte. On est parti, on s'est embarqué à Venise sur un bateau soviétique. On a été interrompu parce que la Turquie a envahi Chypre au milieu. On est arrivé à Athènes, au Pirée, le jour de la chute des colonels. Et après, on a fait du stop. On est arrivé en Syrie.
Voilà.
Par la frontière de Bab el-Hawa.
Et là, j'aimerais que vous racontiez finalement le grand déclic qui se produit dans cette Syrie meurtrie d'aujourd'hui. Le déclic entre vous et le monde arabe se situe dans un coin à Apamé.
Oui, voilà. C'est frappant parce que justement, la dernière fois que je suis allé en Syrie, je le raconte dans Passion Arabe, je suis passé de nouveau par là où je suis passé la première fois. C'est-à-dire par cette poste-frontière, à part qu'il était fermé la deuxième fois, et je suis passé illégalement. Le régime d'Assad avait perdu le contrôle de cette zone et à l'époque, les villages avaient été libérés par ces rebelles dont on pensait qu'ils allaient apporter la liberté au pays contre la dictature et qui ensuite se sont fait bouffer par les djihadistes. Et donc, là, j'ai pas pu retourner à Apamé, qui est d'ailleurs complètement détruite aujourd'hui parce que c'est une ville antique. C'est le site, c'est-à-dire des successeurs d'Alexandre sur un fleuve qui s'appelle l'Oronte. Qu'on appelle en arabe Nahr al-Assi. L'Assi, c'est celui qui s'est révolté, parce qu'il coule vers le nord, alors que les autres coulent tous vers le sud.
Mais racontez-nous en quoi il y a eu ce déclic pour vous, étudiant occidental, qui saviez peut-être effectivement des choses sur le papier concernant ce monde arabe.
Rien. Je m'intéressais uniquement.
À Apamé, vous êtes accueilli et vous êtes un peu une sorte d'Ulysse qui vivait in vivo, comme vous dites, l'Odyssée.
En fait, j'y connaissais rien du tout. Non, moi, je m'intéressais. Aux ruines grecques et romaines. J'étais un cagneux. On m'avait même pas dit que les Arabes existaient à l'époque. Et en Syrie, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, sauf pour le mariage. Et ils m'avaient passé des photos qu'ils avaient faites dans ce village, qui était en fait autour d'une immense ruine d'Apamé, qui était la plus grande colonnade du monde antique que les Belges avaient trouvée à l'époque du mandat français. Et il y avait un oppidum, une citadelle, qui servait au village antique. Et puis je suis allé là-dedans, j'ai demandé à la famille X, je leur ai apporté les photos, et ils ont été complètement estomaqués, parce qu'ils ne s'étaient jamais vus en photo. Et moi j'étais vraiment dégueulasse, j'ai couvert de poussière, et ils m'ont accueilli d'une manière absolument fabuleuse, qui était du coup complètement congruente avec ce que j'avais pu lire dans l'Odyssée, si vous voulez.
Oui. Ouais. Alors justement, ce moment, ce déclic, vous l'écrivez très bien dans Passion Arabe, Gilles Kepel.
Donc le village s'appelle maintenant Kalat el-Moudik, c'est-à-dire mot à mot le château des gorges en arabe. À mon arrivée, les femmes avaient pris mes pauvres hardes roidies de crasse, déchirées et maculées de taches, qu'elles avaient lavées, reprisées, repassées avec méticulosité. Et l'on m'avait fait enfiler une robe, une djellaba, que je revêtirais pendant tout mon séjour, à l'instar des villageois dont aucun ne portait le pantalon. Elles avaient aussi fait chauffer une grande bassine d'eau sur un feu de bois, qu'elles transportèrent pour moi dans un hammam sommaire pourvu d'éponges naturelles, de pierres ponces en lave et de savon d'Alep. C'était un luxe. Le bois était rare et cher. J'étais traité en hôte de marque. Accroupi nu dans cette bassine d'eau tiédie, lavant mon corps de ses impuretés, je m'étais administré, sans le savoir, la lustration du baptême d'où je renaîtrais arabisant.
Ah, je relève évidemment ce mot de baptême, c'est-à-dire que les habitants de ce village syrien des années fin des années 70 vous ont converti, Gilles Kepel. À quoi exactement ?
Ben à moi.
C'est-à-dire ?
À ce que je suis devenu.
Un arabisant.
Oui.
Un politologue arabisant.
Oui, politologue, c'était pas tellement mon truc à l'époque.
Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce moment où vous êtes perdu dans ce monde arabe, recueilli comme ça par des habitants du fin fond d'un village syrien, provoque chez vous le désir de rentrer en communion, je sais pas si le mot est trop fort, avec la culture arabe.
Et avec la langue, en tout cas. Parce que c'était le seul moment où je me suis senti bien à ce moment-là. J'étais très mal, ma mère était morte, quand je suis rentré évidemment ma copine m'avait plaqué puisque j'avais abandonné 3 mois, je ne m'en veux pas. Mais enfin j'étais pas zen si vous voulez, hein. Je savais plus quoi faire, j'avais foiré à Normal Sup. Donc, et là...
L'hospitalité alors.
Voilà, oui, il y avait ce côté, ce déclic, je me souviens très bien, ça m'est arrivé. Je suis rentré, je suis allé me promener vers le parc Montsouris, je me souviens, à l'époque il y avait encore de grands réservoirs là, ce qui viendrait plus tard le RER. Ça s'appelait la ligne de Sceaux à l'époque. Et
un voyage avec vous, hein.
Oui, dans le RER.
C'est toutes les stations, hein.
Ben, c'est vrai, oui. Après, j'ai beaucoup pris le RER pour aller faire du terrain en banlieue.
Donc, dans ce grand froid, là,
je me souviens très bien. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'étais pris d'une sorte, je me souviens très bien, un sentiment de vertige et de froid. Et puis, je me suis dit, ben voilà, là, tiens, je vais faire de l'arabe.
On va vous retrouver, Gilles Kepel, dans l'Égypte de 2012 tout à l'heure, et puis surtout dans La Fracture, votre nouvel ouvrage. Mais là, on va ressortir un de vos vieux 33 tours.
Oui, j'ai pas réussi à passer là.
Shir Imam, non mais on a de la tendresse pour les 33 tours. Ça va revenir vintage, vous savez. Qu'est-ce que vous aimez dans cette chanson, Les yeux des mots de Shir Imam?
Oui, Oyoun El Kalam. Le rythme, je crois. Cette voix aussi, cette voix très profonde. Qui vient du fond de la vallée du Nil. Et puis à l'époque, moi, j'étais devais encore être plus ou moins gauchiste. Donc, Shir Imam, c'était un chanteur communiste, issu du mouvement ouvrier égyptien. Et donc, les yeux des mots, le refrain, c'est en dialecte, ça m'affiche la Gdalila, Rer Oyoun El Kalem. C'est-à-dire, tu n'as pas d'autre guide que les yeux des mots, parce qu'il ne voyait rien avec ses yeux.
Gilles Kepel, politologue qui promène sa passion arabe jusqu'à RFI. On fait un point sur le monde et on se retrouve dans 3 minutes.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Pourquoi Gilles Kepel en sol majeur? C'est la question qu'on se pose depuis 20 minutes. Autour d'un politologue qui passe sa vie dans les avions, à sillonner le monde et les révolutions arabes, la question du djihadisme en Europe et au Levant, la radicalisation dans les prisons de l'Hexagone, résultat, la fracture, nouvel ouvrage. Mais bref, Gilles Kepel, qui partageait avec nous en première partie un chouïa, je dirais, de son roman familial commencé en terre tchécoslovaque, n'a pas seulement le temps de flâner dans les musées, les librairies ou les théâtres, c'est bien ça ?
Ah non, non, pas du tout. J'ai passé le week-end dernier à Rome, où j'étais à la découverte d'une peintre extraordinaire qui s'appelle Artemisia Gentileschi. Et je pars à Madrid dans 2 jours. J'ai passé pas mal de temps au Prado.
Je ne sais pas si, lorsque vous n'écrivez pas vous-même, vous prenez le temps de lire les autres. On va voir ça avec La Soumission et Houellebecq dans le texte.
Il ne faut surtout pas avoir de point de vue pour écrire un tel roman, parce que il y a plein de personnages qui ont des points de vue dans ce roman. D'ailleurs, aucun point de vue vraiment de conviction, ceci dit. Hein. Mais il y a plein de personnages qui essayent d'expliquer comment les choses vont se passer. Le mieux est de ne pas avoir point de vue pour leur laisser la parole à tour de rôle. On peut éventuellement dire politique-fiction. Satire, oui, parce que les hommes politiques sont quand même assez ridicules. Les universitaires aussi. Donc il y a pas mal de personnages comiques, quoi.
J'aime.
Et c'est vrai que c'est ça qui signe la satire en général.
J'aime pas.
J'ai remarqué un demi-sourire chez vous, hein, Gilles Kepel, en écoutant les propos de Houellebecq à propos de son livre Soumission, donc je rappelle, roman d'anticipation qui se déroule en 2022, année où la France élit comme président Mohamed Ben Abbès, un leader musulman. Pourquoi vous souriez ?
Ah, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Il y avait 2-3 petites choses que je lui signalais qui me semblaient pouvoir poser un problème. Mais...
C'est un roman, hein, en même temps, c'est pas...
Oui. Non, mais la question, vous savez, le verset satanique, c'est aussi un roman. Hein. Et puis, je sais ce que c'est maintenant que d'être condamné à mort par les djihadistes. Donc, personnellement... Donc,
vous avez une fatwa vous-même.
J'en ai 3, oui.
Donc pour vous,
l'ai lu comme un roman.
C'est pas un livre, pardon, provocateur et islamophobe, parce que c'est le reproche.
Non, ça c'est... Ouais. La notion d'islamophobie, c'est une tarte à la crème inventée par les islamistes pour essayer de fermer justement autour de la lutte contre l'islamophobie une communauté imaginaire et de construire une position de pouvoir, de s'emparer du pouvoir sur nos compatriotes musulmans. C'est du reste étonnant, vous savez que le roman paraît le 7 janvier.
Oui.
Houellebecq passe
jour des attentats de Charlie Hebdo.
Exactement. Bon, Houellebecq fait la une de Charlie ce jour-là. Prédiction du mage Houellebecq, dans 20 ans, je perds toutes mes dents. Parce que Houellebecq, il a un côté Rimbaud, si vous voulez, vous connaissez cette... Je vais vous le dire tout de suite. Rimbaud, la définition du poète par Rimbaud, vous savez, c'est le poète doit se faire voyant et pour cela s'implanter et se cultiver systématiquement des verrues sur la figure. Et Houellebecq, c'est un peu ça. Il a construit une dégradation de son corps terrible.
Je dirais que c'est une verrue ambulante.
Mais il a construit cette espèce d'acuité du regard qui est extraordinaire, un peu Oyoun El-Kalem comme chez Imam. Bon, après ses positions politiques, etc., personnellement, je m'en contrefous. Je le perçois comme un auteur et sans doute le plus grand écrivain français. C'est le seul qui est lu dans le monde entier aujourd'hui.
Et, c'est votre définition d'un grand écrivain français donc.
Ah, bah, quand même, oui. Il est traduit dans toutes les langues. Je veux dire, c'est pas du roman. Qui ne concerne que les histoires de coucherie à Saint-Germain-des-Prés, ou en tout cas dont tout le monde se fout.
Hommage à l'autofiction. Qu'est-ce que vous ressentez en face d'un tableau d'une certaine Artemisia Gentileschi?
Artemisia. Oui, j'ai
bien écorché son nom.
Non, c'est pas grave. Oui, j'ai vu l'exposition à Rome ce week-end et j'étais extrêmement ébloui. C'est une peintre donc, du début du XVIIe siècle qui s'inscrit dans la lignée du Caravage. Qui est une femme qui a un destin extraordinaire, terrible, violée à 17 ans par un assistant de son père, et qui est connue pour ses Judith coupant les têtes d'Holoferne, Suzanne et les vieillards, enfin qui remettent en scène cette histoire de la violence du rapport entre les hommes et les femmes, mais qui en même temps le traduit, y compris à travers le répertoire du sadomasochisme dans la peinture, d'une façon exceptionnelle et en particulier... À un moment où on a un peu de mal à avoir des modèles, où vous savez, Michel-Ange peint des femmes qui sont en fait des hommes auxquels il a ajouté des seins. Et elle se regarde dans la glace et son modèle, c'est elle-même. Et il me semble que, et ben voilà, vous voyez, à 61 ans, j'ai enfin trouvé quelque chose. Mm-hmm. C'est sans doute la plus extraordinaire représentation du corps féminin dont j'ai eu l'expérience.
Il faut aller jusqu'à Rome. Et le prix Nobel de littérature 2016, est-ce que vous l'aimez, Gilles Kepel?
Ah oui, je suis un grand fan. Je suis un grand fan de Leïla Slimani. J'avais...
Non, je parle du Nobel de littérature, pas du Goncourt.
Ah pardon, excusez-moi.
Vous avez le droit de vous tromper.
Bon, c'est, on parlera du Nobel
après. Jolie
après.
Tromperie avec Bob Dylan.
Oui. Mais je dois en mentir une.
Blowing in the wind.
Ah oui.
Je fais le travail parce qu'autrement.
D'accord.
Merci.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Il est mieux d'avoir un œuf aujourd'hui ou une poule demain.
À mon fils, retourne toujours à la maison.
À casa torna.
Hel yujad mithl.
Y a-t-il un proverbe ou une devise qui gouverne votre existence?
Allez, je sais pas n'importe quoi. Rien ne sert de courir. Il faut partir à temps. Ma grand-mère aurait adoré ça.
Ah bon? Un proverbe en arabe, vous avez ça ou pas dans la besace?
Ça va me venir, je vous donnerai tout à l'heure.
Hein, s'il vous plaît. Est-ce que ces pays arabes que vous observez depuis des décennies maintenant sont pour vous uniquement des laboratoires de réflexion ou c'est devenu autre chose?
Ah, ça y est, je l'ai trouvé. El-Kileb Tenkah, El-Krafilat Amour. Les chiens, la caravane passe. Je vous compléterai.
Très bien. Alors, ce monde arabe que vous connaissez, oui. Donc, de l'intérieur, laboratoire ou plus que ça pour vous?
Non, j'aurais pas pu passer ma vie 40 ans en considérant des êtres humains comme des souris de laboratoire. Au contraire, c'est un monde que j'ai beaucoup aimé, où j'ai beaucoup aimé, que je continue à beaucoup aimer, mais dont effectivement l'évolution a un côté désespérant.
Vous avez osé un titre christique dans Passion arabe. Pour quelle raison?
Oui, parce, tout à fait délibérément. Passion arabe, c'est ma passion. J'ai été passionné par ça pendant toute ma vie. Sinon, je ne l'aurais pas fait, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, la passion arabe, la passion du Christ. C'est la passion de la souffrance. Parce que les Arabes sont dans une souffrance épouvantable. D'autant plus qu'on a cru à ce moment-là que ça s'était entrouvert. Vous savez, vous parliez de Flaubert tout à l'heure... Avec un de mes copains d'enfance, niçois aussi d'ailleurs, on est allé en Égypte et on a loué un bateau qu'on appelle en arabe moderne une dahabeya, c'est la cange de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Un bateau en bois, on est descendu le Nil, et la police avait disparu, c'était après la chute de Moubarak, et les djihadistes et le banditisme n'avaient pas encore tout récupéré. Et donc on s'arrêtait où on voulait, on arrêtait le bateau, j'avais acheté un petit guide en arabe sur les lieux saints coptes, et les couvents, les lieux de pèlerinage, j'attrapais un gars avec une voiture, est-ce que tu peux m'emmener là, 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 bien sûr, jamais arrêté, arrêté, ce que je n'ai jamais pu faire pendant 35 ans, parce que c'était totalement fliqué, si vous voulez, à l'autre Égypte. Et puis là, ben, maintenant c'est fini, c'est impossible, si j'y vais, je me ferai couper la tête, donc ça ne me dit rien.
Fin 70, je l'apprends en lisant notamment Passion arabe, vous êtes donc au Caire, Gilles Kepel, pour votre thèse sur les mouvements islamistes en Égypte.
C'est pas fin 70, oui, c'est en 1981.
Et vous êtes juste...
1980, j'ai 1980.
C'est une fin 70, début ouais, 80, vous ouais. êtes donc sur place en 81, au moment de l'assassinat d'Anwar el-Sadat. Un moment que vous vivez et que vous analysez sans doute ensuite, mais est-ce que, je me posais la question, est-ce que votre objectif d'arabisant finalement, c'est de sortir de la grille de lecture occidentale par rapport à ce monde arabe?
Bon, je suppose que vous appelez grille de lecture occidentale ou orientale.
Toujours une perception différente. Hein. Sadat, la mort de Sadat, vue de Paris et vue du Caire, c'est pas exactement ressenti de la même manière.
Je vais vous dire, je viens très bien de ça. la dame qui travaillait chez moi, qui s'appelait Ehsan.
Votre femme de ménage.
Voilà, qui était femme d'un flic, qu'on appelait un flic vert, un amin shorta, c'est-à-dire un type qui met des contraventions, pas un chawish de base. Donc, rentre, finit son travail vers 2h, et puis je la vois revenir tout de suite, et elle me dit en dialecte, Monsieur Gilles, enfin, Monsieur Gil, parce qu'on prononce le G, Monsieur Gil, Monsieur Gil, smert fi radio al-bawab, darabu al-rossas al-sadet, inshallah yimawitou. Monsieur Gilles, j'ai entendu sur la radio du concierge, on a tiré sur Sadat. Inch'Allah, pas besoin de le traduire, qu'il est tué. C'est étonnant parce que, si vous voulez, dans le peuple égyptien, si on peut simplifier, exprime rarement, surtout une femme, des sentiments aussi violents. Et puis, la femme d'un flic, bon, elle habitait dans un bidonville, etc. Mais, et donc, ça m'a beaucoup frappé, cette violence, le fait que Sadat, finalement, s'était fait haïr à ce point, pas uniquement pour le traité de paix avec Israël, mais aussi parce qu'il incarnait quelque chose qui probablement choquait en profondeur la société. Alors, je ne sais pas si c'est une
Pourtant, il avait opéré un rapprochement avec la religion, derrière Nasser.
Oui, mais tout le monde savait que c'était du bidon. Il y a une blague qu'on appelle une nocta égyptienne qui courait à l'époque. Donc, Sadat avait un cal.
Un point sur le front.
Qui est en principe un signe de piété. Et une sorte de chancre que cultivent les gens très pieux. Et en égyptien, ça s'appelle zbiba. Ça veut dire le raisin sec. Donc l'histoire se passe le lendemain de l'assassinat de Sadat, sous l'estrade où il est mort, il y a un type qui balaye. Il voit un truc par terre, il le ramasse et dit « Eda ». Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?« Ah, dis zbiba taraïsda ». Ah, c'est la zbiba du président. Comme quoi, sa piété était simplement un affichage, un raisin sec collé avec un peu de salive et qui tombe lorsqu'il est tué, vous voyez.
Mais justement, je repose ma question, finalement, vous n'y avez pas répondu. Le fait d'être dans cette langue arabe que vous comprenez au point de partager un proverbe, etc., dans une situation comme celle de l'assassinat de Sadat, est-ce que ça vous donne une autre grille de lecture sur ces événements différentes de celles que Paris peut adopter?
Je pense que c'est une grille différente de ceux qui n'ont pas accès à la langue. Ma distance donne aussi peut-être une lecture différente de ceux qui ont accès à la langue mais qui sont complètement dedans. Et c'est l'objet, vous avez dû entendre parler de ça, de la polémique
avec Olivier Roy, un autre spécialiste du monde arabe.
Oui, enfin, je vous laisse le qualifier comme vous voulez, si vous le souhaitez. Et donc, qui m'a, dans la polémique l'autre jour, me dit « mais ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour travailler sur les banlieues françaises ». Ça me semble une proposition complètement aberrante. Évidemment, la plupart des rebeux sont français. Néanmoins, l'univers référentiel, celui vers lequel justement on va comprendre pourquoi tellement de gens sont tournés en France vers Daesh et non pas en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, beaucoup moins, il fonctionne en arabe, il fonctionne avec des catégories qui sont sacralisées par l'arabe. Un jour j'étais avec un chauffeur taxi salafiste, à l'époque où je prenais encore des taxis avant que...
Vous ne soyez sous protection.
Oui. Et le gars me dit, oh, j'ai déjà vu vous. Je dis, oui, moi aussi, je vous ai déjà vu. Ouais, qui je suis? Pourquoi vous me dites ça? Je dis, vous êtes salafiste. Ça veut dire quoi, salafisme? Je lui réponds en arabe. Et puis après, on dit, vous êtes avec cher machin ou cher bidule. Je dis, cher bidule, bien sûr. Puis on a commencé à discuter. Puis après, il me dit, vous savez, monsieur Keppel, on ne peut pas faire vraiment sa religion si on ne connaît pas l'arabe. Et c'est vrai, il avait raison, d'une certaine façon.
Mais en même temps, il n'y a pas que des arabisants qui rejoignent le djihad. Le petit Kevin des banlieues ne passe pas forcément par cette case-là.
Ah, absolument, oui. Mais il va l'apprendre. Si vous voulez, par exemple, dans Terreur dans l'Hexagone, je retranscris les propos d'un jeune converti toulousain et qui fait des cassettes, qui a été tué ensuite, des cassettes appelant à rejoindre l'État islamique. Alors, il s'exprime dans un français cassoulet, si vous voulez, à couper au couteau, l'accent du sud-ouest. Mais il farcit ses phrases d'expressions arabes oui. Qu'il essaie de prononcer autant que possible.
L'expression la plus répandue, « Masha'Allah », ne prouve rien.
Ah, mais pas ça, non, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, il transforme le français. Les djihadistes disent « se désavouer d'avec ». C'est la traduction de l'expression arabe « al-bara'a » dans « al-wala ou al-bara'a », c'est-à-dire l'allégeance aux pieux salafistes et le désaveu de tous ceux qui ne sont pas des salafistes. Voyez, et ça formate complètement leur manière de penser. Et ils déconstruisent d'une certaine manière la langue française pour la coller à des expressions de ce type-là. Alors bien sûr, tout le monde ne fait pas ça, heureusement. Mais si on ne comprend pas le référentiel arabe, on manque Non, alors, si je ne les limite pas, hein, parce que le roi et les autres essaient de m'enfermer dans une espèce d'image d'orientaliste arabisant qui nique des textes. Ça n'est pas vrai du tout. J'ai passé un an à Clichy-Montfermeil avec une équipe de l'Institut Montaigne en 2010, 5 ans après les émeutes.
Et alors,
pour
si
comprendre
vous
ce qui s'est passé.
Un état des lieux rapide, synthétique.
Mais non, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2005. Parce que, si vous voulez, l'année charnière, pour nous, à mon avis, c'est 2005. À la fois avec les immenses émeutes qui se répandent comme une traînée de poudre, dont on dit que ces deux malheureux enfants qui sont électrocutés dans le transformateur qu'on a été la cause, ce qui n'est pas vrai. Cette cause-là a été ensuite rapidement résorbée, même si ça a servi de flambeau. La vraie cause, c'est qu'une grenade lacrymogène est tombée à côté de la mosquée Bilal de l'ancien entrepôt de tissus à Clichy-sous-Bois et qui a ensuite été construite comme une agression quasiment militaire de l'État français contre des musulmans en prière et qui a ensuite construit la révolte. Mais bon, le terrain était sec pour qu'une étincelle l'enflamme, si je puis dire. Mais... Et ça, vous voyez, ça, c'est, je trouve, c'est mon travail de faire des sciences sociales.
Il est près de 21h hier soir dans un quartier pavillonnaire de Magnanville. Un policier rentre chez lui lorsqu'un homme surgit devant sa maison. Il lui assène 9 coups de couteau.
Larossi Abala.
Un Français âgé de 25 ans.
Il retient en otage la femme et l'enfant du commandant.
Qui habitait à Mantes-la-Jolie.
Connu des services antiterroristes. A agi au nom du groupe État islamique.
La dissimulation.
L'enfant de 3 ans est en état de choc.
C'est d'ailleurs l'une des stratégies des djihadistes de l'organisation de l'État islamique.
Sa mère âgée de 36 ans.
Pour éviter d'attirer l'attention.
Travaillait également dans la police.
D comme djihad.
Et vous revoilà donc Gilles Kepel après donc les attentats de Charlie, du Bataclan, du 13 novembre, du 14 juillet, du 26 juillet avec le père Hamel, donc avec la fracture que vous esquissiez déjà en ouverture de cette émission. De quelle fracture vous parlez ?
C'est celle que justement les Larossi Abala et compagnie veulent susciter dans la société française. En multipliant des crimes monstrueux comme celui-ci, ils veulent faire deux choses. D'abord sidérer la population et ils espèrent qu'il y aura des réactions, c'est-à-dire qu'il y aura des pogroms, des lynchages, ce que les frères musulmans après appellent pour s'en réjouir l'islamophobie, et que du coup, à cause de ça, la plupart de leurs coreligionnaires se regrouperont sous leur bannière et que ça va fracturer, cliver la société française. Avec d'un côté des musulmans qui seraient pris uniquement dans une identité communautaire, au lieu de jouir de la pluralité des possibilités d'une identité qu'on a en France, et face à cela, une société française qui aurait une crispation hexagonale, si vous voulez, et qui dirait musulman, pas français. Voyez.
Alors vous dites qu'il y a une bonne nouvelle, c'est justement l'attitude des musulmans de France.
Oui, et puis des Français en général qui n'en veulent pas, de cette fracture.
Vous nous rappelez, Gilles Kepel, qu'en 2005, un certain Abou Moussa Balsouri publie un texte fondamental de 1600 pages qui appelle à la résistance islamique mondiale. Ça a été traduit par vos soins.
Enfin, pas les 1600 pages. Hein, pas j'ai les traduit les seules choses en partie intéressantes.
Voilà, l'essentiel. Oui. Qu'y a-t-il dans ce texte que nos autorités n'ont pas prise au sérieux?
Ben c'est la révolution culturelle du djihadisme qu'elles ont ratée complètement, du fait justement de l'ignorance ou de la sous-estimation des textes et de l'idéologie dans la langue originale, et de sa capacité à mobiliser les gens. Souri tire les leçons des échecs précédents du djihad en Algérie, en Égypte en 97, parce que les masses n'ont pas voulu suivre. Puis le 11 septembre, qui était la lutte contre l'ennemi lointain, très spectaculaire, mais qui tape contre, qui envoie des Saoudiens dans les airs pour taper sur le World Trade Center et le Pentagone, là encore la mobilisation rate. Et donc il dit qu'il faut faire une troisième phase qui dépasse les deux premières, qui en est ce qu'on appellerait dans la philosophie hegelienne l'aufhebung, le dépassement, et c'est l'Europe qui est le ventre mou du djihad, de l'Occident, la cible du djihad, et on n'envoie plus des Saoudiens dans les airs, on va mobiliser des jeunes rebeux ou convertis, mécontents de leur sort socialement, qui ne s'identifient pas à la société, qui sont prêts à tuer. Et ça, c'est le fantasme, et ça va mettre des années d'incubation. Les gens prennent, les flics prennent pas au sérieux, ni en France ni ailleurs. L'incubation se fait principalement dans les prisons.
Plus du tout dans les mosquées.
Non, faut pas exagérer. Si vous voulez, dans les années du deuxième djihad, celui de d'Al-Qaïda, ça passait essentiellement par les mosquées. Que les services de renseignement avaient repéré, ils allaient écouter. Ils ont arrêté tout le monde. Mais ils sont endormis sur leur laurier. Ils n'ont pas compris que ça passait disons, par d'autres choses. Et puis
vous parlez de Ouma en ligne aujourd'hui.
Oui, et puis vous l'avez dit, c'est dans le texte de Souris, c'est janvier 2005. Et il se passe quelque chose de très important. Yasmine, vous en souvenez certainement, le 14 février 2005.
Dites-moi. Bon,
j'espérais que vous alliez me dire que c'était la Saint-Valentin.
Vous avez l'art du grand écart.
Oui, vous allez voir, c'est YouTube à son agrément en Californie. Et c'est ça qui va permettre ce développement du djihadisme 3G, si vous voulez. Les services de sécurité ont eu 10 ans de retard.
Ce que vous nous dites pour lutter contre cette offensive islamique mondiale, c'est que nos dirigeants n'ont pas le choix, il faut qu'ils deviennent eux-mêmes des arabisants. Gilles Kepel.
Bon, bah, faut pas exagérer.
Bah, écoutez,
sinon, je perds mon
job. S'ils n'ont pas accès. Oui,
déjà,
c'est vrai.
Déjà que il ne sert pas à grand chose, mais.
Trouvez. Vous n'êtes pas entendu.
Entendu, si. Écoutez, sans doute pas. Quelqu'un comme moi, de mon genre, effectivement, a accès à la plupart des dirigeants en France ou l'étranger, bien sûr. Mais ils s'en foutent complètement de ce que je peux leur raconter. Je pense. C'est ça. Ça m'a beaucoup frappé, en particulier pendant ce quinquennat hollandais, où j'ai quand même fait un rapport de plus de 300 pages pendant un an pour le Premier ministre sur la situation calamiteuse des études arabes en France.
Et ce n'est pas entendu pour quelle raison?
On m'a dit très bien et ça a été foutu à la poubelle. Alors que j'ai quand même remis le rapport la semaine suivante.
Comment vous l'analysez ce...
Parce que vous avez en France une haute fonction publique issue des grandes écoles comme l'ENA, etc., qui méprise profondément le savoir de l'université.
Et la culture arabe et tout ce qui touche le monde arabe?
Pas seulement la culture arabe, qui méprise le savoir de l'université en général. Et comme ils ne sont pas à l'aise avec la culture arabe et qu'ils veulent contrôler le pouvoir sur les enjeux de sécurité, si vous voulez, on considère que l'arabisant est un farceur et on continue la tête dans le sable.
L'Europe est touchée tout entière, mais vous dites qu'il y a quand même une spécificité française. Vous parlez d'un grand récit du djihadisme français.
Oui. Je crois parce que, d'abord, ce djihad-là est un djihad en langue arabe. La France est le plus grand pays arabe de l'Europe en termes d'immigration. L'Allemagne est turque, la Grande-Bretagne est indo-pakistanaise, donc même si on peut traduire, le référent est là. Et puis, l'autre facteur, c'est que la France a une situation sociale particulièrement catastrophique. 40% des jeunes dans les quartiers n'ont pas de job. Donc comment voulez-vous vous identifier au savoir de l'école et aux valeurs que ceci véhicule? Et puis je crois que on n'a pas été capable de penser en France, non plus du reste dans les pays du Maghreb, ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle aujourd'hui la dimension rétro-coloniale. Mera tue les enfants juifs de l'école Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars 2012, c'est-à-dire 50 ans jour pour jour après le cessez-le-feu dans la guerre d'Algérie, et il recommence la guerre d'Algérie sur le sol de l'ancienne métropole avec sa famille qui dit bravo, je suis fier de lui, il a mis la France à genoux.
Vous parlez donc de fracture, Gilles Kepel. Vous dites même que notre patrie est en danger. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que l'identité française est menacée par ce vent mauvais de l'histoire?
Ah, en tout cas, elle est mise en cause. Elle est conchée, l'identité française, par ceux-là même qui se réclament du djihad, qui veulent se désintégrer, si j'ose dire, par rapport à la France, très clairement. Les salafistes, de manière non violente en principe, pour certains d'entre eux, ils veulent partir, il faut fuir la France, faut faire la hijra, hors de la terre de la mécréance. Et par les djihadistes qui veulent la détruire, effectivement. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si on n'est pas vigilant, la guerre civile larvée qu'ils ont réussi à introduire dans les mentalités risque de s'aggraver. Donc, c'est pourquoi cette élection présidentielle est à haut risque.
Une question faussement naïve. Pourquoi est-ce que vous vivez sous protection policière aujourd'hui?
Parce que, comme un certain nombre d'entre nous, de vos collègues aussi, on s'est fait menacer de mort. Je parlais de la Rossi à Balla tout à l'heure, après avoir égorgé cette malheureuse femme sous les yeux de son petit garçon de 3 ans.
Vous imaginez, parlez du couple de policiers.
Absolument, à Magnanville. Il enregistre une vidéo sur Facebook Live, instantanément partagée par ses fans, ses friends, où il appelle à tuer un certain nombre de gens, dont votre serviteur.
Un sol majeur rfi.fr.
À lire ou à relire La Fracture, qui vient de paraître chez Gallimard, ainsi que Terreur dans l'Hexagone, Genèse du djihad français ou Passion arabe. Merci Gilles Kepel, je vous laisse vous envoler vers d'autres aventures bien protégées. Dvorak aura le mot de la fin. Pourquoi Dvorak?
Ah ben, c'est le Tchèque. C'est la symphonie du Nouveau Monde. Donc c'est, vous savez, nous autres les Tchèques, on s'assimile à tout. Et on n'a peur de rien.
Visiblement. En sol majeur, avec Facebook, Twitter, et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Tigran Yegavian. À la semaine prochaine.